de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir à tous, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Aujourd'hui, le 25 août 2019, je vais vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La fermeture de l'île de Komodo est un courage d'action », a déclaré le gouverneur de Nusa Tenggara de l'Est. La Grande-Bretagne aide le café culture de Papouasie. L'Indonésie et la Grèce renforcent leur coopération économique. Belitung et Toba sont proposés d'être un géopark mondial. L'ambassadeur de Corée du Sud visitera cinq villes pour promouvoir la culture. Chers auditeurs, voici les journaux complets. Le gouverneur de Nusa Tenggara de l'Est, Victor Bungtilo Laiskodat, a déclaré samedi à Kupang que le projet de son administration de fermer temporairement l'île de Komodo dans la zone du parc national était une politique qui montre le courage de l'action de son gouvernement. D'autres politiques que le gouvernement a osé adopter, telles qu'un moratoire sur l'envoi de travailleurs migrants indonésiens de Nusa Tenggara de l'Est et un moratoire sur les mines. Concernant le plan de la fermeture du parc national de Komodo, ou abrégé en TNK, pendant un an a pour but de préserver le Komodo et son écosystème afin d'accroître la valeur du tourisme de Komodo. Selon lui, cette politique visait uniquement à élever la dignité des habitants dans cette province. Le gouvernement britannique, par l'intermédiaire de l'unité des changements climatiques, aide les caféiculteurs de 12 régions de Papouasie et de Papouasie-Occidentale à accroître leur production. Le directeur du programme de croissance économique verte en Papouasie et en Papouasie-Occidentale, Anthony Torrance, dans le district de Wellesley, la région de Jayawijaya, a déclaré que le café pouvait améliorer le bien-être des citoyens. Les données montrent que la Papouasie produisait des grandes quantités de café, mais a réduit depuis 2005. En plus d'encourager les agriculteurs à retourner au jardinage, son côté coopère également avec les acheteurs afin que les agriculteurs n'aient pas de difficultés à commercialiser leurs produits agricoles. Si le programme réussit, il sera continué pendant 7 ans. L'Indonésie et la Grèce ont renforcé la diplomatie économique et de l'information ainsi que la diplomatie publique sous le nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis. Christina Natalia, responsable de la fonction d'information de l'ambassade d'Indonésie à Athènes, a déclaré récemment à Antara à Londres que l'ambassadeur d'Indonésie en Grèce, Ferry Adamar, a rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique. Lors de la réunion, les deux pays ont la même compréhension de la similitude des caractéristiques de l'Indonésie et de la Grèce en tant que nation insulaire avec le secteur maritime qui devient le pré-mine. Franco Giannis a apprécié l'invitation d'Adamhar à créer un parapluie juridique dans le domaine économique en impliquant les ministères concernés, y compris le ministère chargé des affaires maritimes en Grèce. Le gouvernement indonésien proposera à deux géoparcs nationaux, à savoir Belitung et Toba, de faire partie du géoparc mondial dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, lors de la réunion de International du réseau des géoparcs d'Asie-Pacifique, ou abrégé en APGN, 2019. La réunion se tiendra à Lombok, dans l'ouest de Nusa Tenggara, du 30 août à 6 septembre 2019. Comme l'a déclaré le secrétaire du comité des géoparcs indonésiens, Anton Setio Nugroho, récemment à Matraman. La décision sur cette question sera décidée lors de la réunion du réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO à Paris, la France, en avril 2020. L'ambassade de la République de Corée du Sud fera la promotion de ses relations bilatérales, y compris dans le domaine de la culture, du tourisme et des aliments spéciaux de la Corée du Sud dans 5 villes d'Indonésie. Le chef de la section économique de l'ambassade de Corée du Sud, John Jo-yong, a déclaré récemment à Antara que l'activité s'appelait TECO ou l'ami coréen à Java, qui se tiendra pendant 6 jours du 2 au 7 septembre. La tournée sera dirigée par l'ambassadeur de Corée du Sud en Indonésie, Kim Chang-bum. Lui et la délégation voyageront par voie de terre environ 1000 km de Jakarta à 4 villes, à savoir Cirebon, Brebes, Solo et Surabaya. L'événement de TECO dans Jawa est organisé gratuitement et ouvert au public sans inscription. Diverses activités à cette occasion sont entre autres des danses traditionnelles indonésiennes et coréennes, compétition de mukbang, spectacle de mode, taekwondo, costume traditionnel hanbok et représentation en guest star de Sinister, Coming Soon et Shining Diamond. C'est tout le journal d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. La mise au point de la semaine aujourd'hui intitulée IAID, réalisation concrète de la politique de diplomatie économique de l'Indonésie. Le 20 et 21 août à Nusa Dua, Bali, l'Indonésie a organisé le dialogue sur l'infrastructure entre l'Indonésie et l'Afrique en indonésien, Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue, ou abrégé en IAID. Cet événement est en suivi et en effort pour maintenir la dynamique du Forum Indonésie-Afrique, ou Indonesia-Africa Forum, ou abrégé en IAF, en 2018. Le président de l'Indonésie, Joko Widodo, a officiellement ouvert le dialogue sur les infrastructures entre l'Indonésie et l'Afrique 2019. Dans son allocution, il a invité les pays africains à réaliser des progrès et à faire un grand pas avec l'Indonésie. L'Indonésie est également prêt à coopérer avec les pays amis d'Afrique et aussi un ami de confiance pour le bien-être des deux parties. Comme le président Joko Widodo, la ministre des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a déclaré que l'engagement de l'Indonésie et des pays africains était de progresser et de prospérer ensemble. L'Indonésie veut faire partie du développement en Afrique et vice-versa. Environ 700 dirigeants d'entreprises, décideurs, hauts fonctionnaires, plusieurs ministres et autres parties prenantes d'Indonésie et d'Afrique ont participé à l'IAID 2019. Les participants ont discuté des efforts concrets déployés dans les domaines industrie stratégique et diplomatie économique, connectivité, infrastructure sociale et tourisme, énergie et mines, mécanismes de financement, coopération commerciale et coopération au développement. Au cours des deux jours de mise en œuvre, on a conclu un accord commercial d'une valeur de 822 millions de dollars américains, soit environ 12 300 milliards de roupias, et on estime que ce nombre continuera d'augmenter. Cette valeur a augmenté par rapport aux résultats du Forum Indonésie-Afrique obtenu en 2018. L'IAID a réussi à mettre en place une stratégie pour renforcer la coopération avec l'Afrique. Outre la conclusion d'un accord commercial, l'Indonésie a signé une déclaration commune avec Djibouti concernant la création d'un accord commercial préférentiel, ou en anglais Preferential Trade Agreement, ou abrégé en PTA. tandis que le PTA avec le Mozambique sera signé dans un proche avenir. En outre, l'Indonésie a mené la première série de négociations sur la création d'un accord commercial préférentiel entre l'Indonésie et Maurice. Le ministère des Affaires étrangères, en tant que fer de lance de la diplomatie, en particulier de la diplomatie économique, coopérant avec le ministère du Commerce, encourage toujours le PTA avec des marchés non traditionnels pour accroître les exportations de produits indonésiens. Du côté des entreprises, bien des entreprises d'État ou privées, IAID a réussi à faciliter l'expansion en Afrique, y compris l'investissement de l'énergie de Meka Persada dans le secteur du pétrole ou du gaz au Mozambique et le Sinarancol, qui poursuit son expansion en Éthiopie, au Ghana et en Tanzanie. C'est tout la mise au point de la semaine. Chers auditeurs, voici l'histoire d'aujourd'hui, le 25 août. Nous commençons par le 25 août 1933, le tremblement de terre de Dixi. Le séisme s'est produit à Dixi, le district de Mao, Sichuan, République de Chine, le 25 août 1933, dont la magnitude était de 7,3 et l'intensité était Marsali, maximale de X ou abrégé extrême. Le tremblement de terre qui a tué 9300 personnes était le plus meurtrier de cette année. Ensuite, le 25 août 1989, le faisceau spatial de Voyager 2 était arrivé à Neptune. Le 25 août 1989, Voyager 2 était arrivé à la planète Neptune, puis quitté l'orbite du système solaire. Voyager 2 est le premier faisceau spatial pouvant atteindre Neptune. Voyager 2 est un faisceau spatial sans équipage des États-Unis lancé le 20 août 1977. Cet avion est identique à son frère Voyager 1, à la différence que Voyager 2 suit une trajectoire plus lente pour survivre sur l'écliptique, permettant à Voyager 2 d'être envoyé à Uranus et à Neptune grâce à l'aide de la gravité lors d'une rencontre avec Saturne en 1981. Grâce à ce passage, Voyager 2 a pu devenir le premier faisceau spatial à atteindre Uranus et Neptune. Il a aussi pu compléter une partie du Planetary Grand Tour, un arrangement géométrique rare de planètes extérieures qui n'apparaît qu'une seule fois en 176 ans. Nous terminons avec le 25 août 2012, la mort de Neil Armstrong. Neil Alden Armstrong est la première personne à marcher sur la Lune. Avant de devenir astronaute, Armstrong était un officier de la marine américaine. Il travaillait à la guerre de Corée. En tant que participant du programme de vol spatiaux humains de Man in Space Soyuz de l'armée de l'air des États-Unis, et du programme X-20 Dinosaur, Armstrong a rejoint le corps des astronautes de la NASA en 1962. Son premier vol dans l'espace était la mission Gemini 8 de la NASA en 1966. À cette époque, il était pilote et le premier américain arrivant à l'espace. Dans cette mission, il a assemblé les deux premières engins spatiaux habités avec le pilote David Scott. Voilà l'histoire d'aujourd'hui. Voilà la chanson intitulée Masih Cinta, ou en français J'aime toujours, chantée par Kota. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur l'onde de cœur de 3,3 de 5 kHz. Chers auditeurs, la rubrique suivante, voici mon Indonésie. Voici mon Indonésie, dont le titre est La Papouasie maintient son engagement. Le gouvernement provincial de Papouasie reste déterminé à organiser la Semaine nationale du sport en indonésien Pekan Olahraga Nasional, ou abrégé en PON, qui se déroulera du 20 octobre au 2 novembre 2020. L'annulation de PON n'est pas une option, car la Papouasie veut faire de PON un tournant décisif pour les avancées de développement régional. Pour cela, on espère que le gouvernement central soutiendra pleinement l'organisation de la semaine sportive qui sera ouverte par le président Joko Widodo. Cela a été dit par le chef par intérim de l'Agence de la jeunesse et des sports de la province de Papouasie, Alexander Kikapisa, après la 20e réunion de préparation du PON au bureau du ministère de la jeunesse et des sports à Jakarta le jeudi 22 juillet. Alexander a déclaré « La Papouasie a continué d'essayer d'achever la construction de 56 arénas. » Oui, arénas ont été finis, entre autres le stade principal de Papua Bangkit, le stade d'athlétisme et le basketball. Le reste, il devrait être achevé au plus tard en mai 2020. Jusqu'à présent, le principal obstacle est le temps limité, géographique, et la source matérielle du développement provient presque tout de l'extérieur de la Papouasie. Tandis que le ministère de la Jeunesse et des Sports s'est assuré que le budget et les préparatifs de la Semaine nationale du sport 2020 en Papouasie allaient bien. Cela a été révélé directement par le secrétaire du ministère de la Jeunesse et des Sports, Gatot S. Dewa Broto, après avoir présidé la réunion de la fourniture d'équipements pour le 20e concours PON en 2020 avec le sous-ministre par intérim chargé de l'amélioration des performances sportives Yuni Purwanti et le chef du ministère de la Jeunesse et des Sports de Papouasie, Alexander Kapisa, dans la salle de réunion du 3e étage du ministre de la Jeunesse et des Sports Senayan, Jakarta. En fait, Gatot a veillé que le 20e PON 2020 en Papouasie se déroulera conformément au calendrier convenu le 20 octobre 2020. En outre, le ministère de la Jeunesse et des Sports a également préparé une aide budgétaire pour la mise en œuvre du PON Papouasie de 328 milliards de roupias. En ce qui concerne l'assistance en équipement, il a préparé un budget de 191 milliards de roupias. En outre, lors de la réunion, on a également discuté du statut des équipements après les Jeux asiatiques de 2018 et des Jeux paralympiques asiatiques 2018 qu'on pourrait prêter pour l'événement du PON 2020 si nécessaire. Madame Yuni Purwanti espère que le PON 2020 en Papouasie se déroulera comme prévu. Elle coopère également avec CONI, UKOI et d'autres partenaires afin de créer une bonne harmonie pour le succès des Jeux d'Asie du Sud-Est 2019.
Sakitnya
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Citra Scholastica, dont le titre est Sadis, qui signifie sadique. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, on se retrouve encore dans le magazine culturel. Aujourd'hui, je vais vous présenter la route de Liang Petang à Sumbawa, Nusa Tenggara de l'Ouest. Chers auditeurs, cette attraction touristique peut stimuler l'adrénaline lorsque vous y entrez. La grotte de Liang Petang est située au village de Batu Tering, Sumbawa, Nusa Tenggara de l'Ouest, à 30 km de la ville de Sumbawa Besar. Liang Petang est une combinaison du mot Liang, qui signifie la caverne ou la grotte, et Petang, qui signifie la nuit ou l'obscurité. Comme son nom, cette grotte est vraiment très sombre. L'outil que vous devez apporter lorsque vous verrez la beauté dans la grotte est une lampe de poche. Chers auditeurs, dans la grotte, il y a des choses intéressantes qui gardent le mystère, car il y a des chambres qui jusqu'à présent n'ont pas été explorées. Il existe des pierres de cadavres qui, selon les estimations, sont des fossiles humains pétrifiés. En outre, il y a aussi des objets anciens tels que des lits, des poteries et des métiers à tisser. En raison du sol glissant causé par les mousses et les crottes de chauves-souris, vous avez besoin d'un guide local pour explorer cette grotte d'une longueur de 500 mètres. Pour ce service de guide local, vous devez payer 75 000 roupias. Le guide préparera l'éclairage pour faciliter votre aventure. Vous serez surprise de voir les vues exotiques des stalagmites et des stalactites dans cette grotte. Les stalagmites et stalactites à cet endroit sont très uniques et variés. En plus, il y a aussi un groupe de chauves-souris volant dans cette grotte. Pour arriver à la grotte de Liang Petang, vous pouvez prendre la moto depuis le village de Batu Tering. En route, vous apprécierez les vues de la savane naturelle de Sumbawa. Après ça, vous devez traverser à pied une belle petite rivière s'appelle Tiusakat, ce qui signifie une rivière étroite. C'est parce que cette rivière est flanquée par des falaises rocheuses dont la couleur de l'eau est verte. Cette rivière vous tentera de plonger, de sentir la fraîcheur avant d'entrer dans la forêt et de gravir la colline pendant environ 25 minutes avant d'arriver à la grotte de Liang Patang. Chers auditeurs, si vous êtes aventureux et que vous voulez tester votre adrénaline, cette grotte de Liang Patang à Sumbawa est un lieu touristique que vous devez visiter. Nous terminons l'édition du magazine culturel d'aujourd'hui et nous reverrons demain avec des sujets intéressants. Voilà Voice of Indonesia à Jakarta.
Bagiku melupakan.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Soyez toujours avec nous sur la fréquence de 3,3-5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations sur les événements intéressants en Indonésie. Chers auditeurs, voici l'Indonésie en couleur. Dans cette édition, je vous présente des informations sur les étudiants de l'Université de l'Indonésie découvrant le médicament alternatif pour le cancer du col utérin à partir d'épines de poisson lion. Chers auditeurs, trois étudiants de l'Université d'Indonésie du département du génie de bioprocédés de la faculté de génie de l'Université d'Indonésie ont réussi à trouver le médicament anticancéreux pour le cancer du col utérin dérivé du poison d'épines de poisson lion comme médicament alternatif à partir d'ingrédients naturels pour le cancer du col utérin. Les trois étudiants sont Mustika Sari, Sarah Salsabila et Shirley Zanur. La recherche menée par les étudiants sont motivés par l'augmentation du nombre de décès à cause de cancer du col utérin en Indonésie. Sur la base des données 2018 publiées par Globoka, il y a eu 32 469 cas et 18 279 d'entre eux sont décédés. Le poisson lion a également rencontré des espèces envahisses présentant des taux de reproduction et de distribution élevés, entraînant une explosion de la population de 700%. L'explosion a provoqué un déséquilibre de l'écosystème et un déclin des populations de poissons locales, de sorte que les pêcheurs locaux puissent perdre. Mustika a expliqué le traitement par chimiothérapie n'était pas encore totalement efficace en raison des effets secondaires qu'il produisait. L'utilisation du poisson lion est un effort pour protéger l'écosystème marin, car il est l'un des poissons qui nuisent aux pêcheurs. Par les tests en laboratoire, les résultats ont montré que le poison de poisson lion avait réussi à tuer les cellules cancéreuses. Chers auditeurs, on a choisi le poisson lion comme ingrédient alternatif car le poison des épines de poisson lion contient des peptides qui ont une activité antiproliférante contre les cellules cancéreuses par le mécanisme d'induction apoptotique qui consiste à inhiber sélectivement la prolifération des cellules cancéreuses. Pour obtenir une protéine ayant des propriétés apoptotiques contre les cellules cancéreuses du col utérin, les trois étudiants ont extrait le poison à épines de poisson lion qui a ensuite été purifié par précipitation au sulfate d'ammonium par chauffage. L'extrait de poison de l'épine de poisson lion qu'on avait obtenu, on l'a ensuite testé in vitro contre les cellules cancéreuses. Par cette recherche, on espère que cette découverte sera une solution pour des traitements alternatifs contre le cancer du col utérin fabriqué d'ingrédients naturels et pour surmonter le problème de l'invasion du poisson lion dans plusieurs eaux afin de ne pas perturber l'équilibre de l'écosystème. Chers auditeurs, c'est l'Indonésie en couleur.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, La diffusion en français.
Bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku tanah air satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
Chers auditeurs, c'était la quatrième chanson intitulée « Bangun Pemuda Pemudi » chantée par Coklat. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Et cette fois-ci, je vais vous présenter la chanson de pop. Bonsoir à tous, voici le magazine musical. Dans cette édition, je parle d'une chanson de l'une des divas de pop indonésienne, s'appelle Rosa. La chanteuse de Sumedang, qui a une voix distinctive, chante souvent une chanson pour la bande originale du cinéma. Récemment, précisément le 20 août 2019, Rosa a publié une chanson intitulée « Karena cinta yang menemani » ou en français « Parce que l'amour m'accompagne » pour la bande originale du film « Susi Susanti Love All » qui sera diffusée le 24 octobre. C'est un film biographique sur la légende du badminton indonésienne Susi Susanti. Les paroles des chansons créées par Yann Demassif sont adaptées au synopsis du film. Rosa espère que cette chanson lui permettra de faire passer un message fort sur la lutte de Susi Susanti pour remporter la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1992 à Barcelone. Chers auditeurs, voici la chanson de Rosa, dont le titre est « Karena cinta yang menemani ». Bonne écoute!
Terlahir dalam sebuah ketidaksempurnaan, ketakutan yang melemahkanku, dikalahkan mimpi yang kau nyalakan, hidupkan, jadi
Karena cinta. Voice of Indonesia.
Maaf.
akan ku datang. Kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku jaga. Ayat-ayat cinta
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie pour tout le monde sur la fréquence de 3,3 kHz et sur le site web de www.voinews.id. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. À bientôt.